Je faisais la remarque avec l'une d'entre vous que pour une conférence sur le courage dont la racine vient de vir, viril, virtu, l'homme, bah finalement il y a plus de 50% de femmes. Je sais pas, j'ai une idée comme ça qui vient, peut-être que le courage serait plus masculin et l'audace peut-être plus féminine. Vous savez, on parle beaucoup des deux. Il y a d'élégance dans l'audace. Il y a plus d'humilité peut-être dans le courage. Je ne sais pas, l'un est plus ponctuel, l'autre est plus dans la durée. Bon, c'est une petite réflexion comme ça, en attendant les derniers qui nous rejoignent. Est-ce que le son est bon? Voilà, tout va bien a priori? Ok. Alors je me présente, j'allais dire rapidement, ce qui est très mauvais, jamais faire les choses rapidement. C'est très dévalorisant. Même s'il faut aller vite, l'idée c'est de ralentir avant le virage, pour accélérer après. La notion de calme est aussi importante dans le courage. On verra beaucoup de dialectique d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'une chose et son contraire est intéressant. Donc ce sera le problème des niveaux, des moments. À quel niveau, à quel moment être à un certain niveau, par exemple le ralenti, le calme, et à quel moment, par exemple, accélérer, avoir de la répartie, ne pas hésiter. Et même les plus grands hésitent. Alors ça, c'est quelque chose de réconfortant de savoir que on n'a pas toujours de l'audace, on ne l'a pas sur tous les plans, on n'est pas toujours audacieux pour l'avoir été. Et même quelqu'un comme Lancelot, vous savez que Guenièvre lui fait la gueule pendant 20 ans, parce que oui, il l'a sauvé sur la charrette, mais elle lui reproche qu'il a hésité quand même 3 secondes. Et ça, elle met 20 ans pour lui pardonner. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. À quel moment on fait rien? Oui, alors ça par exemple, ça demande quelques années, mais il y a une porte qui claque, vous arrêtez pas de parler, vous regardez pas la porte, vous faites ce que doit, vous êtes stable, pérenne, l'endurance. Et puis à quel moment éventuellement avoir une répartie fulgurante? Ça a toujours peut-être la conscientisation. Différence entre témérité et courage, c'est que la témérité est souvent inconsciente, ça peut être l'absence de peur. Alors que le courage, c'est une conscientisation, alors que par ailleurs j'ai peur, mais je vis tranquillement avec. Vous allez faire un coup, là, il y a 60 paras autour de vous, et puis il y a toujours un pour dire, alors, vous avez peur, mon capitaine? Qu'est-ce que vous répondez? Vos équipes vous disent, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, alors, vous avez peur? Que dire? Il y a une vulnérabilité dans le courage.
Oui.
Mais vous arrêtez là, hein. N'expliquez pas trop. Les lâches expliquent beaucoup. Ah, c'est fascinant comme les lâches adorent expliquer, avant même qu'on leur demande d'ailleurs. Faut que je t'explique. C'est le Thalys, vous savez, dans l'incident du Thalys. Il y a eu 3-4 types assez courageux. Le journaliste ne savait plus quelles questions leur poser parce qu'ils étaient assez brefs. Bah, c'est évident, effet d'évidence, très important dans le courage. Ben voilà, j'ai pas de commentaire. Mais alors le type qui s'est planqué dans la petite cage pour expliquer qu'il était une cour d'appel pour le cas où il assurait la relève, enfin lui, il prenait des heures pour expliquer. C'est fou ce que les lâches répandent. Donc c'est pas très important d'expliquer, mais pas trop tôt et pas trop longtemps. Et on n'explique pas tout, en particulier ses sentiments. Alors vous avez peur? Oui! Mais on s'arrête là. Hein. On se répand pas, comme dirait Jacques Brel. Et alors? Bah alors, rien. Bah, comment ça, rien? Bah non. Tu sais, la peur, c'est une vieille maîtresse, on couche ensemble depuis 20 ans. T'as une autre question? Voilà, ça peut être quelques stratégies. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour également. Donc, je me présente, François Hélion, intervenant de son état un peu par hasard. Je fête les 30 années de la société d'Anthros. Je suis intervenant en comportement, essentiellement managérial, négociation, vente et autres. Voilà, j'ai commis quelques ouvrages, y compris des clés sonores. Ça, c'est une nouvelle expérience. Petite clé qu'on met dans sa voiture. Et puis, je ne viens pas du tout du métier de la formation. Je suis un ancien financier qui a mal tourné. Donc, j'ai souvent mal tourné, d'ailleurs. J'étais parti pour émigrer aux États-Unis et puis je change d'avis en cours de route. Donc, je me présente en candidat libre au bac. Ensuite, je reviens à Paris, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, dans le doute, je fais Sciences Po pour m'apercevoir que j'ai aucune envie de travailler dans l'administration. Donc, je rentre dans la finance sans savoir trop où je mettais les pieds. Ah, ça, je me souviendrai, il n'est plus très connu aujourd'hui, mais Maurice Biderman me fait venir et me dit « Si vous êtes capable, c'est un vendredi, d'être lundi et de virer le secrétaire général de Toulouse, vous prenez sa place. » Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous avez 48 heures pour changer de vie. Alors j'essaye la symétrie. Ben, j'ai dit, si vous êtes capable de doubler le salaire que vous avez proposé initialement, je vous dis oui. Puis l'affaire s'est conclue comme ça. Là, on était plutôt dans de la répartie. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des métiers pour lesquels je n'étais pas préparé, d'ailleurs. Et donc, un peu par hasard, après avoir dirigé 2-3 sociétés, j'ai créé une société de comportement. Alors, démarrons sous le courage. Il y a un sondage intéressant qui a été fait en 2014 sur le rapport des Français et du courage. Tout ça, si vous voulez, je pourrais vous le communiquer le dernièrement. Combien de Français estiment l'audace utile ? Alors, dans le travail, c'est énorme. Dans la vie privée, on tombe à 87. Dans la vie amoureuse, on tombe à 82. Vous savez, quelquefois, on laisse passer la dulcinée par manque de courage du premier contact. Jugement collectif. Vous savez, souvent, les Français ont un jugement individuel sur eux et un jugement collectif sur le reste de la France, qui est souvent très différent. On tombe un peu, mais on reste majoritaire dans cette importance de l'audace. Platon disait que le courage était la vertu qui rendait possible toutes les autres vertus. Que sans cette vertu, c'est très difficile de déployer le sens de la vérité, la générosité, le don, l'abnégation et autres. Alors, quelle est la tendance ? Sommes-nous plutôt en chute de courage ou d'audace ? On fait beaucoup de reproches à nos dirigeants, politiques ou économiques. Même pourcentage, pratiquement les deux tiers, considèrent qu'il y a une chute. À la fois, on considère que le courage est de plus en plus important, indispensable. On se demande d'ailleurs si on peut être un vrai leader sans courage. Et en même temps, le constat est un peu pessimiste. Alors, quand on vient du collectif au singulier, là, c'est la chute libre. Au moins, il y a une forme de réalisme. Le problème, c'est que le soumis aussi est réaliste. Il dit souvent, il faut être réaliste. J'y peux rien. Et l'importance du courage en entreprise, voilà, ce qui est d'ailleurs un peu faible comme chiffre, parce que vous avez d'un côté les intrapreneurs, les entrepreneurs qui mettent le courage et l'audace un peu en avant, et puis les gestionnaires. Différence entre César et Auguste. J'aimerais que l'on voit le premier moteur du courage à travers cet extrait du film « Le cercle des poètes disparus ». Il y a dans le courage, premier moteur, la conscience de mener un combat. C'est vrai que le mot ne plaît pas beaucoup. Bon, on peut comprendre aussi avec le Mein Kampf d'Hitler, mais cette notion de combattre, y compris de combattre ses propres faiblesses. Et dans le combat, ce n'est pas forcément toujours aussi glorieux qu'on le pense. Voyons la séquence. Qu'est-ce qu'il faut pour mener à bien un combat, c'est-à-dire affronter des obstacles, y compris chez soi.
On nous a tous obligés à tirer.
Il faut me croire, je vous jure que c'est vrai.
Oui, je vous crois.
Sortez, monsieur Keating.
Mais c'était pas ta faute.
Veuillez vous asseoir, monsieur Anderson.
Alors, l'idée, c'est de voir comment ces jeunes vont ou pas, d'ailleurs, appliquer un des préceptes vus précédemment par leurs professeurs. Et regardez bien leur regard, leur visage, comment ça se passe pour essayer de contrer le directeur de cette école. Et là, c'est pas évident pour des jeunes dont c'est la scolarité qui en dépend.
Encore un seul mot et c'est l'expulsion. Ça s'applique à tout le monde.
Donc ça, c'est une menace.
Sortez, monsieur Keating.
Qu'est-ce qui va se passer ?
J'ai dit sortez, monsieur Keating.
Comment va-t-il être courageux, le jeune ?
Oh, capitaine, mon capitaine !
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez ? Asseyez-vous ! Allons, assis !
Regarde dans la tête.
Dernier investissement, Anderson ! Quelle insolence !
Est-ce que vous m'entendez ?
Mon capitaine !
Panique à bord.
Assis ! Tous ! Je vous ordonne de vous asseoir ! Vous
entendez ?
Sortez, monsieur Keating !
Bien. J'aime bien cette définition de Le Sen qui disait « Le courage, c'est l'esprit divisé sur lui-même. » Ça demande souvent un effort. Le premier moteur, donc, c'est le combat contre des obstacles qui peuvent être en nous, qui peuvent être à l'extérieur. C'est intéressant de voir d'ailleurs dans les différentes motivations quelles sont celles qui peuvent nous porter au courage et celles, au contraire, qui peuvent être un remède à l'amour du courage. D'après vous, les deux sur lesquels l'affrontement doit se faire quand je veux déployer une stratégie un peu entreprenante, qu'on appellera d'ailleurs le cocooning, le ventre de la mer, l'état nounou, ça serait quoi ? Sécurité, confort. Inversement, il est certain, bravo pour ceux qui l'ont dit, il est certain que les nomades sont plus dans une stratégie audacieuse. J'aime bien d'ailleurs cette phrase de Bergson, le temps contraint. Attention à la routine. Le courage s'exerce contre la paresse, contre les habitudes, contre la routine, qui tue d'ailleurs aussi le charisme. Par ailleurs, je fais des conférences sur le charisme, la routinisation du charisme. Et inversement, c'est vrai que l'orgueil, on verra d'ailleurs, c'est le deuxième moteur, peut être un facteur de courage. La nouveauté, bien sûr. Le courage est plutôt l'audace d'ailleurs, est assez révolutionnaire, tourné vers la rupture du nouveau. Donc il y a une réflexion déjà à faire sur les sociétés de confort, propice au courage, et les sociétés plus d'innovation schumpeterienne. Première notion, le combat. Dans certains de mes séminaires, je vais faire l'exercice suivant. Vous avez une équipe, il y a un accident du travail pour un de vos collaborateurs, il ne peut plus rester à son poste. Vous n'avez qu'un seul poste de disponible. Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors, j'interviens dans 5 pays. En France, une fois sur 4, j'arrête l'exercice parce qu'au bout de 10 minutes, le participant n'a toujours pas eu l'occasion de dire « Tu ne peux plus rester dans ton poste ». Et souvent, par compassion, quand je demande « Mais qu'est-ce qui t'a empêché d'annoncer la mauvaise nouvelle ?» Ah, en général... C'est pas qu'on est des durs à cuire ou des méchants. Non, c'est plutôt par gentillesse. Je savais pas comment lui dire. Je voulais le ménager. Alors c'est vrai que management, c'est ménagement. Mais dans le courage, il n'y a pas trop de ménagement. Il y a aussi de la décision. On verra de la rupture. Décision, décision. Et ceux qui arrivent péniblement au bout de 10 minutes à dire, bon, c'est vrai que tu ne peux pas rester dans ton ancien poste. On n'a qu'un seul autre poste plus administratif à te proposer. Je m'amuse. Je joue le collaborateur. Je m'amuse à dire, et qu'est-ce qui se passe si je ne le réussis pas ? Et d'après vous, qu'est-ce qu'on me répond ? Alors c'est vrai qu'on est le pays de Descartes, on aime beaucoup le rationnel, et on me répond, il n'y a pas de raison pour que tu n'y arrives pas. Alors moi je suis complètement dans l'émotion, dans la trouille, et on me parle de raison. Alors c'est sympathique, c'est vrai que c'est valorisant, mais ça viendra après. D'abord, il est très important de donner, on verra, de l'information claire, de la lucidité sur les règles du jeu. Même, quitte à dire, bon, je suis sûr que tu vas y arriver. Mais c'est vrai que si tu n'y arrives pas, je ne pourrai pas te garder. Mais de même que je te dis la vérité en disant que je ne peux pas te garder, je te dis aussi ce que je ferai dans l'hypothèse où je ne te garde pas. Et c'est ma présentation directe à d'autres entreprises que je connais personnellement. Donc nous avons un gros problème dans, les approches churchilliennes, du sang, des larmes, de la sueur. C'est pas trop notre truc. Nous, c'est plutôt en 40, Paul Reynaud, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. D'ailleurs, l'armée s'est étranglée. C'est une tautologie, d'ailleurs, j'ai jamais vu vaincre des gens parce qu'ils étaient les plus faibles. Mais en plus, c'est une hérésie, parce que si on avait dit la vérité, au moins, on aurait pu sauver la flotte de Toulon, d'autres choses. Gros problème, nous ne savons pas assez gérer une des peurs, peut-être la première des 3 peurs dont parlait Jean Kelevitch, le courage pour résister à la peur de la vérité. Le courage de dire la vérité en entreprise, c'est le courage des règles du jeu. Et souvenons-nous, il y a toujours 2 types de règles du jeu. Comme dans les jeux de société pour les enfants, hypothèse A, tu gagnes, voilà ce qui se passe, t'es chef de service. Hypothèse B, tu ne gagnes pas, voilà ce qui se passe, on se quitte dans l'honneur dans 15 jours. C'est drôle, dans ce pays, on annonce toujours que les règles du jeu pour le cas où ça marche. On a peur d'annoncer les règles du jeu pour le cas où ça ne marche pas. Les gens ont besoin toujours des deux. Il y a de la lucidité dans le courage. Freud disait, on grandit dans les ruptures. C'est vrai que le courage est certainement un des facteurs qui nous permet de déployer nos autres compétences et de grandir. Cette rupture se fait j'aime bien cette expression toujours de Jean Kelevitch, par le courage inaugural des commencements. Être courageux, c'est le premier pas qui coûte, en affrontant ma paresse et ma routine. Ce qui me donne une nouvelle vie, ce qui me permet, on va le voir, de contrer la peur de l'obsolescence. J'aime bien cette définition de la jeunesse que donne le courage. On peut être jeune à tous les âges, si on se rappelle simplement que tant qu'on n'a pas oublié ce que le verbe « commencer » veut dire, on n'a pas vieilli. Le courage ou l'art des commencements. On conseille dans certains séminaires ou conférences aux États-Unis, dès que le conférencier vous a donné une bonne idée, vous n'écoutez pas la suite, vous dégagez et vous vous précipitez pour prendre votre téléphone et passer à l'acte, le passage à l'acte. Le call to action des conférences anglo-saxonnes. J'aime bien cette expression de Carroll Shelby, qui est un constructeur de voitures de course aux États-Unis. Et quand on lui demandait « quelle est ta voiture préférée ?», d'après vous, qu'est-ce qu'il répond ? Toujours, il répondait la même chose, « la prochaine !» Voilà, une des peurs sur lesquelles le courage permet de résister, c'est la peur de l'obsolescence. Très vite, nous pensons que nous ne sommes plus aptes à entreprendre certaines choses, en particulier dues à notre âge ou notre manque d'expérience. Or, ce que peut-être l'énergie, là où l'énergie nous manque, ben, peut-être que l'expérience va compenser. Beaucoup de carrières ont commencé très tard. Pratiquement au même moment, vous prenez en 14-18 un type comme Pétain et en face un type comme Hindenburg, ils ont un point commun, ils étaient à la retraite. Et on peut dire que leur carrière finissait très médiocrement. Mais ils ont insisté pour revenir dans la course et ils ont eu la carrière qu'on connaît. Enfin, je m'arrête à 14-18. J'aime bien le verbe tenir, un des mots clés du courage, c'est tenir, tenir bon, tenir la tête haute, parce que dans tenir, vous avez la racine de nerf. Combien de films d'ailleurs vous parlent, quand vous avez un leader qui veut donner du courage à sa troupe, de l'expression « tenez la ligne ». En plus, au passage, on verra que la ligne, c'est la méthode, c'est l'endurance méthodique. Alors que nous, nous avons beaucoup d'états d'âme qui se traduisent par le goût des exceptions. Là, on va faire une petite fragilité, on va faire une petite exception. Ce n'est pas très grave. Alors, l'exception confirme la règle, vous oubliez, c'est une mauvaise traduction de l'adage romain qui disait « l'exception infirme toujours la règle ». Dès qu'il y a une exception, c'est fini, le barrage va sauter. Et enfin, ce combat est un combat pour une intensité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une séduction du courage et de l'audace auprès des autres. J'aime bien cette phrase de Marc Aurèle qui dit, en gros, « vivez chaque moment de votre vie comme si c'était la dernière ». L'intensité de l'entrepreneur. Faites que chaque situation soit pour vous un moment d'intensité où tout est possible. On demandait à Cocteau, qui a beaucoup réfléchi sur le courage, votre appartement est en feu. Vous n'avez que quelques secondes, qu'est-ce que vous emportez ? Et Cocteau dit, j'emporte le feu. Voilà, quels sont les combats que j'évite ? Parce que quelque part, ça apparaît comme un peu trop brutal. Alors, pour introduire le deuxième moteur, un extrait un peu dur. Vous me direz, s'il ne vous plaît pas, la prochaine fois, je ne le mettrai plus. Je fais une expérimentation dans la mentale. Ces garçons vont passer un très mauvais moment et vous avez deux rapports différents face à une autre forme de peur qui est la peur de la mort.
Prosper, fumé.
Arrêtez, monsieur, putain! J'ai rien à voir avec toi, moi, c'est même pas ma famille!
Je suis plus beau, toi!
Ferme ta gueule, toi! Je veux pas crever, putain, j'ai rien à voir avec tes conneries, putain!
Va me faire ta gueule, ou les gens!
Non, ferme ta gueule, je reviens là! Putain, ils se trouvent jamais!
Non, on n'y voyait aucune symbolique avec le destin des entreprises françaises. Bon, maintenant, comment l'autre va réagir? Il va prendre une autre attitude. Et qu'est-ce qu'il va évoquer pour se donner du courage? Donc il se redresse. Regardez bien ses yeux. Il avance. Le problème du regard est important dans le courage. Il y a, dans un premier temps, une lucidité. Et c'est vrai que comme le plongeur qui finit par se décider à plonger, au dernier moment, il ferme les yeux. On reverra ça tout à l'heure dans l'incarnation du courage, la verticalité du corps et l'horizontalité du regard lucide, permanent. L'angle droit physique du courage. Deuxième moteur donc du courage, c'est d'évoquer des choses qui nous dépassent. C'est très difficile d'être courageux simplement par égoïsme personnel. Par contre, être courageux pour assurer la survie de l'autre, ça nous donne plus de billes. Cette notion de valeur, deuxième notion dans le courage, il y a l'image que je me fais de ma valeur, d'où l'importance d'évaluer régulièrement son degré de courage. Oui, j'ai marqué le Parthénon parce que, à un moment donné, les Grecs, pendant la guerre d'indépendance, assiègent les Turcs qui sont au Parthénon et ils voient que les Turcs, qui n'ont plus de balles, décèlent les pierres du Parthénon. Et ils disent aux Turcs, arrêtez, nous préférons vous donner des balles pour que vous tiriez sur nous, mais surtout, n'esquintez pas quelque chose à laquelle nous accordons beaucoup de valeur, à savoir le Parthénon. Donc, très important de savoir qu'est-ce qui nous rend, d'ailleurs c'est l'indicateur d'un bon choix, qu'est-ce qui nous rend fiers. Plus j'essaye de me regarder dans une glace, plus je me dis, telle personne qui a de la valeur à mes yeux, s'il me voyait, penserait telle et telle chose, cette notion aussi d'honneur. Faire honneur à l'image qu'on se fait de son leadership, de son rapport au travail. L'indicateur du bon choix, c'est quand je sais que je peux être fier de ce que j'ai fait. Une des peurs aussi importantes, des sept peurs que je fais travailler dans les séminaires, la peur de l'échec. Et ceci est dû aussi parce que nous pensons que notre valeur vient du résultat. Alors certes, il y contribue, mais avant tout, notre valeur, elle est intrinsèque. Elle n'est pas dans le fait que j'ai réussi ou non, même si j'ai une préférence, elle est dans le fait que j'ai entrepris, que j'ai essayé de mettre deux concepts importants, toutes mes compétences, mes atouts, au profit de mes rêves. Et cette peur de l'échec fait souvent que non seulement nous n'entreprenons pas, mais en même temps, nous essayons trop souvent de se vendre aux autres, de prouver d'entrée de jeu notre infaillibilité. Très souvent, les expériences, une conférence, eh bien, auront plus de chances de réussir s'il y a un incident de parcours que s'il n'y en a pas, qui, au passage, permettra d'ailleurs de faire appel à l'aide de l'environnement et des gens qui sont autour de nous. Alors que nous avons très peur que, dès qu'il y a un incident, tout va s'écrouler. L'importance aussi du rôle dans le courage. C'est très difficile d'être courageux et audacieux si on ne s'enrôle pas. Souvent, en jouant un personnage, d'ailleurs, nous sentons que nous sommes autorisés à faire des choses qu'en temps normal, nous ne faisons pas. La plupart d'entre nous, chefs d'entreprise, nous devons enrôler les gens. Pour enrôler les gens, la première chose à faire, c'est de s'enrôler soi-même. Et s'enrôler, ça veut dire mettre un masque pour, en particulier, couvrir ses états d'âme. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'afficherai mes états d'âme. S'ils servent mon rôle, s'ils servent mon personnage, s'ils servent la situation, et en particulier, la situation bénéfique pour les autres. Trop souvent, notre naturel nous fait afficher trop vite nos émotions. L'idée, c'est de gérer nos émotions au bon moment et dans la mesure où elles servent notre personnage. Le rôle et l'ambition. Alors l'ambition est toujours un terme où on a perdu. C'est vrai que sans ambition, le courage est plus difficile. On dit qu'on est ambitieux, on passe pour un ambitieux, c'est pas très bon. On dit qu'on manque d'ambition, c'est pas très bon non plus. Donc c'est toujours un concept, comme le combat, où on a intérêt à pas en parler. Il y a le courage du dictionnaire, comme disait Confucius, on disait « qu'est-ce que tu commences par faire pour réformer une organisation ?» Un dictionnaire. Je n'ai pas peur des mots, je nomme. Je nomme mes objectifs, je nomme l'adversaire, je nomme mes peurs. Mais ça ne veut pas dire que je les commente. Après le combat, après la valeur, introduction au troisième moteur du courage.
1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry.
Excuse me. Do you know who I am?
I have absolutely no idea.
Good.
Là, on est plus dans l'audace. Son rapport est assez léger, assez simple. Après la valeur de l'honneur, de l'ambition, de l'élévation, il y a presque une dialectique dans le troisième moteur du courage. C'est une mise en œuvre simple de ces valeurs élevées. Le membre du jury, enfin le professeur, n'est pas très humble. Lui, il reste au ciel, les yeux mi-clos. Vous voyez la prudence de qui n'exclut pas l'audace finale, la prudence de ce jeune qui commence par poser une question. C'est toujours intéressant d'avoir cette reprise de pouvoir par la question. Elle permet ce ralenti initial qui ensuite nous donnera l'audace d'avancer. Hein, dans la Bible, il y a un extrait que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui est aveugle et qui dit au Christ, « Toi qui sais tout faire, tu me rends la vue, peut-être. » Et le Christ commence par une question. « D'abord, est-ce que tu crois en moi ?» Et quand l'autre lui dit, « Bah oui. » Eh bien, tu as la vue, tu es guéri. Cette notion de petit retard à l'allumage au début, de retour humus, la terre, l'humilité, la simplicité, permet ensuite le déploiement d'une façon d'ailleurs assez légère. Il y a aussi une légèreté dans le courage, beaucoup de dialectique. Humilité de mise en œuvre, et ensuite, on verra de légèreté dans, en particulier, les résultats. Première notion dans l'humilité, vous avez la lucidité. Grande différence entre le courage et la témérité qui n'est pas lucide, il y a ce désir de voir le réel, d'ailleurs c'est un des courages, de lutter contre la peur des réalités, la peur qui je trouve affecte beaucoup notre pays en ce moment, de voir les réalités ici et maintenant, la lucidité du chef d'entreprise qui accepte de nommer un chat un chat et de dire que les caisses de l'État sont vides quand les caisses de l'État sont vides. Alors que très souvent, nous pensons que, plutôt que de dire les réalités, nous devons courir vers des espèces de solutions miracles. Je trouverai toujours le gourou qui me donnera la bonne solution, hein, les raccourcis. Or, ce qui est profond dans la vie est souvent simplement modeste. Cette notion de ici et maintenant, ou de recentrage, hic et nunc. Ne pas enterrer les problèmes, ne pas dramatiser les situations, pour mieux d'ailleurs les enterrer. Ah mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ça qu'il faudrait changer, donc tu comprends qu'on ne le changera pas aujourd'hui. Cette notion aussi toujours du passé, que l'on ne peut pas dépasser. Combien de personnes commencent ces entretiens par une petite mort au passé? Malheureusement... le syndrome de la grand-mère. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'adore. Tout de suite, on se sent un peu coupable. Et puis il y a aussi le syndrome du futur. On dégage toujours par des promesses, bien sûr, non connectées au présent. Donc dans l'entreprise, quand quelqu'un vous fera des promesses, vous dites jamais non, c'est le plus sympathique des sabotages, qui décentre, mais vous leur ajouterez un acompte au présent. Merci de redresser le département d'ici 2 ans, et concrètement, à partir de demain matin, qu'est-ce que tu commences par faire? Cette lucidité et conscientisation du courage est cependant limitée, surtout au dernier moment. Il y a un moment donné où je dois me dire, j'ai besoin d'un minimum d'informations, mais je ne joue pas, l'information permanente est parfaite. Savoir définir son minimum et accepter son taux, sa part d'ombre et son taux de non-connaissance. Autrement, c'est la paralysie de l'analyse. Et ce flou que je dois accepter, ça s'appelle aussi l'intuition. Attention aussi à trop de lucidité qui pourrait s'appeler la circonspection. Vous avez des personnes, en même temps qu'ils vous parlent, eh bien, ils surveillent s'il n'y a pas une porte qui claque à droite. Ils ont la prudence circonférie, circulaire. En même temps, la vulnérabilité est une puissance qui sert aux courageux. Le courage n'est pas une toute-puissance. Ce qui nous empêche d'être courageux, c'est deux extrêmes, que font d'ailleurs souvent l'enfant. Il passe très souvent de l'impuissance à la toute-puissance. Ah, je suis impuissant, j'ai beau pleurer, papa, il regarde sa télé. Ah, je suis tout-puissant, je pleure, maman, elle arrive tout de suite, et hop, elle me met deux, trois bisous. Quelquefois, c'est l'inverse, hein, c'est le père et le mère. Ni toute-puissance, ni impuissance, mais j'ai des vulnérabilités, et je fais avec. Voire même, j'en tire profit. J'appelle autour de moi les compétences que je n'ai pas. Savoir reconnaître ses vulnérabilités, c'est savoir aussi bien s'entourer, déléguer, et puis s'appuyer, je dirais, sur la jambe, comme au ski, on ne s'appuie jamais sur la jambe qui est cassée, on s'appuie toujours sur la jambe qui n'est pas cassée. Au moins, ça m'oblige à avoir une lucidité sur mes réelles compétences, sur mes réels atouts. Très souvent, nous méprenons sur nos atouts. J'aime bien cette expression, la nudité du courage. Savoir descendre de son estrade, sortir de son bureau et aborder son personnel à main nue, dans l'usine. Un jour, un client me demandait en rhétorique comment faire pour réussir ses exposés. Je lui dis souvent, les questions ont leur réponse interne. Vous venez de le dire, il faut s'exposer. Plus j'aurai des prudences. Là, je suis en train d'en avoir un peu derrière ce pupitre d'ailleurs. Il faudrait que je passe là. Plus j'ai des prudences, plus je suis scotché à l'objet, eh bien, moins je pourrai déployer mon courage. Dans la vulnérabilité, il y a aussi l'humilité du feedback. Toujours s'enrichir du commentaire de l'autre. Accepter avec humilité de se faire apprendre son métier, de se faire apprendre ce qu'on connaît déjà, de se faire apprendre par ses clients, son personnel. Prenons deux applications concrètes de cette humilité. Dans une négociation, qui annonce en premier sa position ? Un commercial, qui annonce en premier sa position ? Alors souvent on nous dit, allez, laisse venir la bête. Paradoxalement, non. Je vous conseille d'être le premier à annoncer votre position. Quand vous le pouvez, hein, quand les prix ne sont pas sur les étiquettes. Parce que vous créez l'effet de halo. Déjà, l'autre se dit, ah, zut, on joue déjà dans une cour que je n'avais pas prévue. Et très souvent, dans les séminaires, je fais affecter des positions d'acheteur d'un côté, des positions de vendeur de l'autre. Eh bien, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, c'est toujours pareil. Quand je fais parler un des deux, l'autre annonce sa position déjà avec 10% de moins. Parce qu'il est déjà aspiré par la zone où le premier qui a affiché avec audace et simplement sa position l'a entraîné. Autre humilité et vulnérabilité du courage, que emploient très bien les commerciaux, c'est savoir envisager l'échec. On dit qu'un loser, c'est quelqu'un qui pense toujours à ce qu'il va faire s'il réussit. Mais qu'un winner, c'est quelqu'un qui pense toujours à ce qu'il va faire s'il ne réussit pas. Donc intégrer l'échec, ce n'est pas partir perdant. C'est déjà déployer meilleure solution de repli en cas d'échec. La BATNA des Anglais, Best Alternative to Non-Agreement. Savoir envisager l'échec et se dire, ça ne m'empêche pas d'y aller. Connaître d'ailleurs ses taux de réussite historique, c'est important. Dans la frugalité, dans les moments de crise, dans les entreprises, nous avons intérêt à se rappeler de l'image, par exemple, de l'arbre, où on élague toutes les branches. En général, on n'en tient que trois. C'est intéressant ce trois. C'est essentiel du 3, j'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi, l'humilité me permet de contrer cette peur du manque. J'ai souvent la tendance à penser que les ressources sont limitées sur Terre et que si je n'ai pas beaucoup, je ne résisterai pas longtemps. Beaucoup de trésorerie, beaucoup d'effectifs, beaucoup de mètres carrés. C'est une des peurs qui nous fait faire beaucoup d'erreurs, qui nous fait d'ailleurs souvent surcontrôler pour avoir beaucoup d'informations. Et qui nous fait croire que c'est la quantité plus que la qualité qui nous fait réussir. Non, nous avons en général beaucoup plus que nous n'avons jamais besoin d'utiliser pour réussir. Et surtout se dire, je suis adéquate. J'ai déjà dans mes compétences et j'ai déjà dans mes motivations de quoi m'amener très loin. Alors dans la lucidité, j'aime bien cette grille, parce que plus je prends conscience que j'ai souvent été beaucoup plus courageux que je ne le pensais, et que les maximums que j'ai atteints, bah, pourquoi pas se demander pourquoi aujourd'hui je ne les atteins pas ? Peut-être que l'environnement ne me convient pas. Donc ma moyenne générale de courage en me notant de 0 à 10, c'est des réflexions qui sont intéressantes dans des séminaires. Mon meilleur historique, mon best, inversement. Qu'est-ce qui a créé ça ? Comment je me suis senti quand j'ai vécu ça ? Quelles conséquences finalement ça a eu dans ma vie ? Combien de fois je pensais des choses finalement impossibles à atteindre, avec des peurs pas possibles ? Finalement, j'ai fait face et c'était beaucoup moins grave que je ne le pensais. Dans les activités qui me motivent le plus, est-ce que j'ai plus de courage que dans le reste ? Et puis, mon niveau actuel, où est-ce qu'il se situe ? Comment je peux le redresser ? Quel est mon idéal que j'ai envie de mettre au profit de mes rêves et de mon projet d'entreprise ? Voilà, cette lucidité sur ces questions est fondamentale. Le temps, mon historique, mais également l'espace. Nous ne prenons notre dimension que quand nous trouvons les bons espaces. C'est très important chez les gens exceptionnels. Les études d'Howard Gardner tendent à prouver qu'en général, ce sont des gens qui ont trouvé leur théâtre d'opération, comme dirait La Rochefoucauld. Ils ne cherchent pas à être performants n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc trouver ces domaines où je peux utilement faire preuve d'audace. Alors, dans l'humilité, il y a aussi l'acceptation de la petite mort. C'est fondamental dans cette courbe du progrès, dans cette courbe du changement, dans cette courbe de l'apprentissage. En général, les choses commencent plutôt bien, par exemple dans un séminaire. Je commence à savoir comment faire mon service au tennis. Je commence à mettre en pratique, ça s'appelle la petite mort. Ah, le compte professeur, mon ancien tennis service, je ne l'ai plus. Et mon nouveau, je ne l'ai pas encore. En fait, je perds tous les services. C'est le mal du siècle, disait Musset. Ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore. Si j'accepte cette petite mort, si j'accepte cette régression provisoire, je peux avoir la progression de la connaissance, qui n'est pas le savoir. La connaissance est un savoir mis en pratique, d'ailleurs, qui m'a fait pas mal bugger. Quelquefois, revenir en arrière, la nouvelle chaussure, elle me fait plus mal aux pieds que l'ancienne. C'est pas pour ça que je ne changerai pas de chaussure. Connaître, c'est renaître, disait Victor Hugo. Pour renaître, il faut accepter de mourir un peu. Ce qu'on appelle les petites morts sont indispensables dans les stratégies de progrès. Elles nécessitent du courage. Donc, un des obstacles au courage, et c'est paradoxal, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de valeur, d'honneur, mais que je distingue de l'orgueil, qui, lui, peut être négatif. Car les gens orgueilleux se gardent de prendre le risque de faire voir qu'à un moment donné, ils sont un peu moins bons parce qu'ils expérimentent de nouvelles méthodes dans de nouveaux marchés avec de nouvelles personnes. La résistance à l'orgueil que fait très bien l'enfant, d'ailleurs, ça lui est égal pour apprendre à marcher, de tomber 2000 fois par terre devant ses parents. Il se redresse à chaque fois. Nous, on dit une fois, pas deux. Là, c'est très gênant. Quatrième donnée du courage. Ah, petite bifurcation sur un chemin de travers. C'est audacieux quand même. Le rêve de tout entrepreneur. Voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre cette publicité dans ce salon. Pourquoi je l'ai mis sous l'angle de la liberté, mais on verra aussi, ça sera sur la cinquième, la solitude, c'est que plutôt que de prendre cette voie toute tracée, vous savez qui conduisait son véhicule au début, il a fait une bifurcation. Cette capacité de retrouver sa liberté en prenant des chemins de traverse, en n'allant pas forcément dans des choses prédictibles grâce à une stratégie réelle de courage. Très souvent, nous confondons les actes et les comportements. Les comportements sont routiniers. L'action est faite de choix, de volonté de choisir, qui est un des fondements du courage. Une des peurs qui nous empêche de choisir, c'est souvent de surestimer l'autorité, soit de mes dirigeants, soit de la puissance publique, soit du marché, soit de tout ce qui m'entoure et des règles. Nous donnons beaucoup trop d'importance au pouvoir qu'ont les autorités sur nous. Il y a dans cette audace ce sentiment de retrouver son indépendance, sa liberté, et de se dire que si nous avons besoin des autres, ils ont également besoin de nous. Cette notion aussi d'interdépendance. Nos dirigeants ont besoin autant de nous que nous avons besoin de notre dirigeant. Il y avait un moine bouddhiste, Thanissilich, je ne prononce pas très bien son nom, qui disait « Le monde entier réside dans cette feuille ». Il prenait une feuille et vous faisait voir que finalement, pour cette feuille, il a fallu couper du bois, il a fallu avoir des menuisiers, il a fallu avoir un moulin, il a fallu avoir de l'eau, il a fallu avoir un agriculteur, etc. Nous sommes dans des chaînes d'indépendance. Plus nous prenons conscience de cette chaîne d'interdépendance, plus notre courage face aux autorités bloquantes augmente et nous prenons des chemins de traverse. Cette notion de traversée du désert aussi est importante. Le choix, voilà un des mots clés du courage, c'est d'éviter de dire « je n'ai pas le choix, je n'avais pas le choix ». Alors ça c'est fascinant quand j'entends un dirigeant qui dirige des grosses entreprises de 200 000 personnes dire dans les médias « j'avais pas le choix ». Ben, je me dis alors le soutien de base, comment il doit être ? Le propre de l'être humain, c'est le libre arbitre. C'est toujours se dire, j'ai toujours le choix. Et face à un collaborateur qui nous diront, oh ben, foutu pour foutu, vous me licenciez, j'ai plus le choix. Si, il y a toujours des degrés dans l'horreur, il y a toujours des degrés dans le bonheur. Gouverner, c'est choisir, disait Mendès France, et cette notion qu'en fonction des degrés, j'ai toujours des choix entre deux meilleures décisions et deux moins bonnes décisions. Le dernier mot d'un homme libre, c'est de toujours dire, face à l'adversité, volontiers. Parce que je le veux bien, pas parce que, monsieur l'inspecteur des finances, vous me l'imposez. Et pour les autres, toujours le voulez-vous. Très important d'entrée de jeu, de ne jamais abandonner votre volonté, votre capacité de choix. Je suis reçu par quelqu'un qui, peut-être sans réfléchir, m'accueille un peu directivement, me disant « allez, asseyez-vous », ce que j'appelle les deux coups de pied au cul. Eh bien, je suis obligé, face à l'impératif de temps, je me rappelle Bergson, de faire deux espaces de choix. Allez, volontiers, asseyez-vous, vous préférez que je m'assoie là ou là. Et qu'est-ce qu'il répond ? Comme vous voulez, il a arrêté d'être con et il m'a reconnu mon libre arbitre. Le mot choix est fondamental dans une stratégie de courage. On éprouve sa liberté permanente et son libre arbitre par le courage des choix. Ah, au fait, c'est quoi une bonne décision ? Parce qu'on me dit, ouais, t'es gentil, mais avec tes choix et ta décision, faudrait d'abord que je sache qu'est-ce qu'une bonne décision. Ben, fondamentalement, j'en sais rien. Je dirais qu'une bonne décision, c'est une décision que je ferai tout ensuite pour rendre bonne une fois que je l'ai prise. Voilà une matrice de choix que je vous propose. En ordonnée, je suis capable de faire, d'agir, de ne pas agir. En abscisse, je contrôle, je sais faire ou je ne sais pas faire. En fonction de ça, vous avez quatre attitudes. Deux sont tout à fait acceptables dans une stratégie de courage et deux sont fortement à éviter. J'agis en permanence alors que je n'ai pas les moyens de l'action. Ça finit par être un peu usant et ça s'appelle l'acharnement et pas toujours thérapeutique. J'ai l'inverse. Ah non, ça c'est une... Je sais faire et je fais, je mets en œuvre ce que je suis capable de faire. Ça s'appelle la maîtrise. Par contre, vous avez le renoncement qui est l'opposé de l'acharnement. Je pouvais faire, mais pour X raisons mentales, j'ai décidé de ne pas faire. Et vous avez une autre forme d'équilibre. Je ne sais pas faire, de toute façon ça tombe bien, je ne le ferai pas. L'idée de choix, c'est déjà dans la diagonale de la maîtrise et du lâcher-prise. Il peut y avoir une notion de tenir bon dans le courage et une notion aussi de détachement, de ne pas être de tous les combats. Donc voilà comment on bascule en général les deux comportements usants et négatifs. Cinquième notion, la solitude. J'aime bien ce petit chinois face à une colonne de chars. C'était a priori impensable qu'ils puissent les arrêter, surtout dans un régime communiste. Eh bien, l'impossible est quelquefois au rendez-vous. Quand on est capable de faire ça, tout entrepreneur est capable de faire de grandes choses. Cette capacité de singularité à tous les niveaux de sens de ce mot. D'abord, le courageux parle au singulier. Le lâche parle souvent au pluriel. Il n'y a pas que moi, maman, il y a aussi tous les autres qui ont fait ça. Hein. C'était l'époque où la tendance générale du secteur d'activité, on oublie. Dans les moments difficiles, dans les crises, on tient le singulier. J'aide certains amis à faire du recrutement. C'est toujours intéressant de voir sur un CV à quel moment on cache la misère. Sur 5 expériences, 2 lignes, 10 lignes, 3 lignes, 2 lignes, 3 lignes. Vous interrogez où ? Là où il n'y a pas de singulier. Là où on se répand. Là où il y a les 10 lignes. Vous êtes sûr que c'est là où il y a le cadavre ? Parce que la nuit, quand on a un petit cadavre, on va dans son jardin, on creuse la terre, on met le cadavre, on tasse bien la terre, et à la première pluie, c'est ce qui se dilate le plus. Interrogez toujours quelqu'un qui se répand. Vous savez que vous aurez la misère. Parce que quand le job était bien, il te le dit en 3 phrases. J'ai pris le service à 2 millions de dollars, je l'ai laissé à 10 millions. Vous avez une autre question ? La singularité aussi, c'est le courage des responsabilités. Le responsable répond, j'en réponds personnellement. Je parle pour moi. J'assume. En cas de pépin, c'est moi. Cette obsession de parler au singulier est intrinsèque au courage. Donc la traversée du désert que nous avons vue tout à l'heure dans la camionnette, cette capacité aussi de savoir faire des jeux négatifs. Ah, ça c'est très difficile. Mais cette capacité, et là on va concilier la vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, la singularité du responsable, être capable, dans des échecs, de dire « je ». Alors on me dit ça, c'est des histoires de consultants. Non. La veille de la bataille de la Marne, tous les généraux se défilent, parce qu'il faut quand même avoir le courage de dire la vérité aux Français. Si les Allemands sont sur la Marne, c'est qu'ils ont beaucoup avancé depuis quelque temps. Sauf qu'il y en a un qui ne se défile pas. Foch, il prend le discours et c'est un chef-d'œuvre en rhétorique. Mon centre est enfoncé, je négatif. Ma droite est contournée, je négatif. Ma gauche se replie, je négatif. La situation est excellente. J'attaque. En plus, c'est très intéressant, parce que je dis souvent dans mes séminaires que le singulier s'arrête à 3. Là, vous avez 3 idées qui sont des stratégies habituelles. Des constats de fait humbles, une interprétation, un sens élevé, l'ambition dont je parlais tout à l'heure, la situation est excellente, et la responsabilité du jeu, j'attaque. Voilà, vous avez un petit chef-d'œuvre dans ce discours. En entreprise, la singularité, c'est de résister en particulier à la peur du rejet. On veut beaucoup se faire aimer par les autres. C'est fou, en particulier, moi je suis un jeune vieux papa, j'ai une petite fille Laura de 16 ans, qui me dit toujours, lui il est populaire, lui il n'est pas populaire, j'aimerais être populaire, etc. Je dis, arrête avec ta popularité. Quand De Gaulle accueillait des personnes qui traversaient la Manche pour venir le rejoindre, et qui avaient eu beaucoup de courage pour faire cela, il disait, et je ne vous remercie pas, vous n'avez fait que votre devoir. Il ne cherchait pas à être populaire. Il mettait déjà la barre du courage très haut, beaucoup plus haut que le fait d'avoir traversé la Manche, pour lequel ça ne méritait pas encore un vrai merci du général. Donc se faire aimer ou se faire respecter, c'est vrai que les deux sont intéressants en charisme, et je conseille toujours de commencer plutôt par le respect. Tenir, et une des tensions, c'est aussi tenir à distance. Au théâtre, on appelle ça la rampe. Oui, vous pourrez faire des stratégies de proximité, mais toujours dans la distance de votre rôle que nous avons vu tout à l'heure. Savoir tenir à distance, ne pas gommer la rampe au théâtre, c'est important. Ça n'empêche pas d'avoir des stratégies de proximité sentimentale. Mais toujours, mon rôle me tient. Je suis tenu. Vous connaissez l'expérience de Milgram, où les gens, par peur de ne pas être conformes, obéissaient à une expérience qui consistait à mettre des électrodes et à faire crier quelqu'un par des charges électriques, bien sûr c'était un comédien, et la plupart ont dit qu'ils avaient accepté de jouer ce rôle de soumission, sans courage, parce que celui qui donnait des ordres avait les signes extérieurs de l'autorité. Savoir ne pas être conforme est un des atouts numéro un de l'entrepreneur. Dites-vous que si vous violez la règle aujourd'hui, peut-être demain il y aura une nouvelle règle qui portera votre nom. L'idée, c'est pas l'anticonformisme pour l'anticonformisme, mais parce que souvent, comme le reste, les normes deviennent obsolètes. Et le premier sur le terrain qui s'aperçoit par humilité de cette obsolescence et prend le risque d'expérimenter une nouvelle norme aura des chances que celle-ci porte son nom un jour. Ah oui, tout à l'heure j'ai fait allusion. Il y a dans cette singularité, dans ce risque, aussi une forme de légèreté, de détachement. J'aime bien ce vieil adage français « fais ce que dois ». et advienne que pourra. Si je suis tendu dans l'effort pour initialiser mon courage, je ne suis plus tendu après. Après, je me laisse conduire, je me relâche. Il y a cette dialectique entre la tension initiale et le relâchement final. Souvent, nous inversons les stratégies. Nous sommes un peu trop détendus au début, et par contre, quand on commence à s'apercevoir qu'on a pris du retard, qu'on n'a pas assez anticipé, on a une tension tardive et permanente. J'aime bien le mot « patron ». Redonnons du sens à ce mot. Vous êtes des patrons, la plupart d'entre vous, qui allez créer votre entreprise ou qui l'avez créée. Je rappelle que le patronage dans la confection, c'est ce qui sert aussi d'exemplarité, de modèle à suivre. Le courage est contagieux. Avant-dernier, l'endurance. Alors je vous ai parlé d'un courage des commencements tout à l'heure, qui est plus proche de l'audace. Il y a un courage plus humble, qui est le courage de durer, de persévérer, qui est un peu plus yang. Les psychanalystes aiment bien jouer sur le mot persévérer, c'est être un père sévère. Bref. Endurance, d'abord le calme et la lenteur, le calme des vieilles troupes, ne pas surréagir. Souvent la deuxième erreur est pire que la première, parce que je veux être infaillible. Et pour ça, bien remplacer les deux dimensions du temps, à savoir la vitesse et le passé, par deux dimensions d'espace. Et ça fera le calme des troupes d'élite. Ça s'appelle la Légion étrangère. Ton passé, je ne veux pas le connaître. Et chez nous, on marche plus lentement que chez les autres. Donc ça s'appelle le ici et maintenant dont j'ai parlé, et ça s'appelle le retard à l'allumage. La justification, je l'ai dit, on explique trop tôt. La fameuse phrase « faut que je t'explique ». Et l'autre jeune regarde et lui dit « mais je t'ai rien demandé encore ». Donc gagnons du temps, paradoxalement, sans se précipiter. Alors là, vous avez une notion importante. Je délire souvent dans mes séminaires sur le 3 et le 4. Nous nous trompons des choses que nous devons faire à 3 et des choses que nous devons faire à 4. Les Grecs disaient dans l'Antiquité, à 4 commence l'infini. J'aime beaucoup cet adage. On ne sait pas trop pourquoi ils le disaient, peut-être qu'ils ne connaissaient pas la quatrième dimension. Il n'y a de véritable endurance que si vous tenez bon le coup. 4 fois. Parce que les gens ne le font pas. Parce qu'ils savent qu'en général, la tolérance s'arrête à 3. Donc on veut être des braves gars. Et souvent ça marche, la plupart du temps, quand il n'y a pas de grands enjeux, pas de stratégie très dure, sans jeu de mots, d'endurance. La tolérance s'arrête à 3, les 3 sommations à l'armée, les 3 essais sportifs, les 3 lettres d'avertissement de l'inspection du travail, et quelqu'un qui dira, fiston, je compte jusqu'à 3. C'est gentil tout net, c'est tolérant, c'est chaleureux, vous le faites 8 fois sur 10. Et puis de temps en temps, vous aurez rendez-vous avec des vrais combats. Et là, vous oublierez le 3, tant qu'on n'a pas fait une chose 4 fois. On ne l'a pas faite. 4, 40, 400, c'est l'infini, c'est le dramatique, c'est le dur. Quand on fait une chose 4 fois, les gens se disent, il va y passer la nuit, il est formé, c'est la pile Duracell. Par contre, à 3, je vous conseille l'humilité de l'essentiel. Les 3 priorités managériales. Ne vous dispersez pas. Contrôler le passé, animer au présent les hommes et prévoir le futur. Pas plus de 3 arguments par idée. Soyez humble et dense. L'intensité dont je parlais. Pas plus de 3 preuves par argument. Pas plus de 3 arguments par idée. Vous ferez des discours. Quand vous avez plusieurs idées, essayez de faire des arborescences. Vous me direz, là je ne suis pas le placé avec mes 7 moteurs. Il faudrait que je fasse maintenant des familles. Des familles de yang et des familles de yin. Tiens, c'est une bonne idée. Il faut que je me corrige en permanence. Un plan à 3 parties. Thèse, antithèse, synthèse. Pourquoi pas. 4e partie, foutaise. Donc soyez à 3 dans l'espace, ça s'appelle l'essentiel, et 4 dans le temps. Durez, répétez-les, redemandez-les. Tant qu'on ne m'a pas répondu, 4 fois on ne m'a pas répondu. J'ai encore une chance qu'on me réponde. En général, on fait l'inverse. On fait des listes d'exigences qui dépassent 3, et on le demande une fois ou deux. Donc tenir la ligne. Un cas que je fais quelquefois travailler. Vous faites un tour de table, vous savez qu'il y aura un saboteur, qu'est-ce que vous pensez de ce type de réunion? Le premier vous répond, merci, le deuxième, merci, le troisième, merci, le quatrième vous dit, ce type de réunion, c'est de la merde, qu'est-ce que vous répondez? Si vous avez bien appliqué le 6e point du courage. Merci, et vous passez. Beaucoup, vous commencez à faire des stratégies d'exclusion. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pourriez partir, si vous n'êtes pas d'accord. Ou alors, carrément de victimisation. Voulez-vous développer vos idées? C'est fascinant. La clé de sol, c'est le killer. Quand vous commencez un code, vous le terminez. Que Dieu ou diable s'en mêle, vous terminez ce que vous commencez. Et vous respectez bien les codes pour l'endurance. Alors ça va casser un peu la créativité, mais juste, je vous rassure, des codes formels, par exemple de politesse. Quand on me dit « bonjour monsieur », je réponds « bonjour monsieur ». Je ne réponds pas « bonjour », comme 80% des gens. Pour introduire le dernier c'est quoi? C'est l'imitation du courage. Une des premières façons d'avoir du courage et de l'audace, c'est d'imiter, un, les audacieux, et d'autre part, donner l'impression qu'on l'est en le jouant, et je retrouve mon rôle. Donc voilà un des outils importants.
Si tu ne connais pas, tu vas faire semblant de les connaître.
Alors je resitue, hein, dans l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est Anconina qui prend la tête de l'entreprise, mais il n'y connaît rien, cinq jours avant il était encore pompiste. Belmondo, qui dégage ses affaires, lui donne un conseil pour donner l'impression qu'il tient bon à la tête d'un codir qui n'a qu'une envie, c'est de bouffer tout cru.
Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris?
Regardez bien les regards.
Tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois?
Oui.
Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? T'es bien concentré?
Oui, bien.
Tu sais que ton père est... était avec le petit pompiste avant?
Il est aspiré, c'est le papa, ça.
Ah bah, non, ça ne doit pas t'étonner.
D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est...
Bah oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner.
D'accord.
Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste.
Oh,
ah ben voilà, non, mais tu recommences.
Vous n'avez pas un autre exemple plus...
ah, non, mais c'est un exemple autre... saisissant.
D'accord, mais celui-là, il est saisissant.
Alors, tu te reconcentres.
Ok.
Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Cœur plongé.
Il faut que je ne fasse rien.
Tu ne fais rien.
Humilité.
L'œil lointain, même, tu vois.
Un peu endormi.
Pas trop.
Pas trop.
D'accord.
Rien.
D'accord. Là, allez-y là parce que je le.
Non, je te dis rien. C'est ça qui doit t'étonner. Il sort un petit étonnement dans ton nez.
Oh non, ça m'étonnerait. Là, j'ai fait comme vous m'avez dit là.
Et lui-même dit, ça m'étonnerait.
Tu sais que tu me plais bien, toi. Ouais.
Mais oui, mais je sais pas si.
C'est ça la chose étonnante.
C'est gênant parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou.
Ah non, dans le test.
Oui, non, mais vous me dites.
Mais ça devrait pas t'étonner.
Oui, d'accord.
Bon.
Voilà comment, dans la deuxième partie du film, on applique quelques outils d'imitation du courage.
Déjà, tu verras sur son visage comme il encaisse.
En particulier, analyser l'équerre dont j'ai parlé tout à l'heure, la verticalité. Je tiens, j'ai une certaine tenue, j'ai la tête haute. Nous, on dit, comme les samouraïs, appuyer la nuque contre le col, sortir sa colonne vertébrale, appuyer légèrement sur les talons. Toujours la force derrière soi, par une belle verticalité, mais devant. L'ouverture, la vulnérabilité, l'humilité, le yin devant, le yang derrière. D'ailleurs, on dit toujours la théorie de yin-yang. Hein. On dit rarement le yang-yin. Donc, comment tout ça va être appliqué face à ce monsieur qui est un pourri du comité de direction et qui ne va pas appliquer les outils qu'Anconina va appliquer en négociant.
Cette information, si tu vois une petite inquiétude, c'est qu'on est sur la bonne piste. Alors, tu continueras.
Parmi ces documents se trouve... le double de son dernier testament. Il semblerait qu'entre ce testament et ses bénéficiaires, il y ait eu certaines manipulations.
S'il réfléchit et qu'il devient curieux, il enchaînera sûrement de lui-même la conversation.
Je vous écoute.
Oui. Bien. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Soit vous faites tout ce que je vous dis, soit... je montre ces documents à qui de droit.
À ce moment-là, il va marquer un temps très long. Il va sûrement te dire, ces papiers sont faux. Vous êtes un maître chanteur ou un imposteur.
Vous êtes un maître chanteur. Ces papiers sont forcément faux.
Parfait.
Toi, à ce moment-là, tu vas marquer un temps, encore plus long. Tu le fixes bien avec tes yeux, tu ne clignes surtout pas, et tu n'as pas l'air étonné. Tu lui fais très très peur. Tout doit jouer dans tes yeux. Et tu lui balances.
Eh bien, maintenant, je pense que c'est aux enfants de choisir entre un maître chanteur ou un escroc.
À ce moment-là, tu verras son œil reprendre légèrement espoir. Et je serais pas étonné qu'il tente une dernière sortie.
Un maître chanteur et un escroc. Ça peut-être s'entendre, non?
S'il te parle d'association, c'est gagné. Tu dis plus rien, tu le fixes. Tu lui fais le regard d'Eliot Ness lorsqu'El Capone tenta de l'acheter. Et t'attends qu'il baisse la tête. Peut-être qu'il la relèvera comme un boxeur sonné. Et là, tu le fixes de plus belle. Et tu me le mets KO.
Pour résumer, la verticalité du yang et l'horizontalité du yin, et du regard permanent, et un regard qui prend, qui donne pas ses états d'âme, mais qui prend en compte l'altérité, qui prend en compte les intérêts de l'autre, du marché. J'aime bien cette phrase, je crois qu'elle est de Balzac, les gens puissants veulent éveil. Dernière slide, et je vous laisse. Des questions à se poser pour faire monter son taux d'audace. Hein, toujours les deux variables, c'est mes atouts et mes rêves. Conscience des atouts, conscience de la zone et de la limitation de mes rêves. Pourquoi pas se projeter aussi, avoir un regard rétroactif. J'aimerais qu'on dise quoi de moi? Qu'est-ce qui m'a motivé dans la vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Quels sont les chemins, même si je n'ai pas réalisé? Quels sont les combats qui ont été les miens et comment je les ai menés? J'aime bien cette phrase aussi, on ne pense pas assez souvent à ce qui n'arrive jamais. Si la vie est la seule expérience dont on ne sort pas vivant, alors pourquoi pas tester toutes les autres? Voilà. Merci à vous. Je peux y répondre avec plaisir. Autrement, j'ai apporté quelques livres sonores. Et au stand, vous avez mon livre papier. Voilà, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Oui.
Comment fait-on pour tenir son rôle?
Oui. Ça pose la question importante, vous avez raison de la poser, de l'authenticité. On me dit, il faut être authentique, c'est vrai. Mais c'est un concept sur lequel il faut être prudent. Comme le courage d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ce sont des concepts moralement neutres. On peut être un salaud courageux, et on peut être authentiquement un grand salaud. Donc ce qui est important en termes de congruence, c'est d'être authentique au personnage que l'on a décidé de jouer. Soit on considère que ce personnage est bas de gamme et on en change, sans considérer qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'humanité et d'abord à ma vie, et on essaye de le jouer avec beaucoup d'authenticité. Au passage, quelle est la mesure finale de l'authenticité? Et là, ça calme les ardeurs. Donc oui, il y a un temps pour être authentique, à son personnage, à l'idée que l'on se fait de son rôle de dirigeant. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Question clé. Qu'est-ce que je peux leur apporter, dois leur apporter en fonction de ce qu'ils attendent de moi? À quoi voit-on finalement qu'on est authentique? Quelle est la première question quand je fais du coaching de dirigeant que je pose à quelqu'un qui arrive en me disant « J'ai un sacré projet, tu sais, authentiquement, je vais y aller. J'ai du jus sur le coup. » Je lui pose une question qui permet de gagner 3-4 séances. Je lui dis « Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ?» J'en ai souvent qui restent bouche bée pendant une minute, qui font tomber le stylo des mains, parce qu'ils n'y avaient jamais pensé. La mesure finale de l'authenticité, mesdames et messieurs, c'est ma capacité de sacrifier tout ou partie de mes intérêts personnel. Et là, il y a congruence. Là, il y a authenticité. Soyez authentique au personnage que vous prétendez. Et si possible, qu'il soit bénéfique pour les autres. Oui, c'est important de finir peut-être sur cette phrase. Le courage, c'est aussi cultiver les liens. Le lien avec moi-même, c'est ma congruence, ma tête, mon cœur, mon corps. Les liens avec les autres, l'altérité. Et le lien avec le futur, faire que son futur devienne un avenir. Trois liens à cultiver pour se donner une stratégie de courage. C'est très difficile d'être courageux sans se mettre dans un environnement de courage. Et sans avoir, Hannah Arendt a beaucoup réfléchi sur ce concept, un sens de sa mission publique.
être courageux pour le service d'autrui. C'est le vrai courage. Être courageux pour sauver sa peau, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais être courageux pour aider les autres à sauver leur peau, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et là, on rentre dans une authenticité. Quel est mon rôle de citoyen? Quel est mon rôle d'entrepreneur? Quel est mon rôle par rapport au chômage ou autre chose? Oui. Et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour tenir ce rôle?